premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je plongeais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Ouais, ma qui dit, sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour.
Voilà, salut, salut. C'est l'émission Papillon sur Radio Dio 89.5. Donc, nos fidèles auditeurs ont remarqué que nous avons malencontreusement échangé le générique de fin et de début. Voilà, vite fait, Papillon, c'est une émission contre les prisons. Aujourd'hui, malheureusement, on n'est que deux pour vous servir. Voilà, salut à tout le monde. Et puis, grosse bise à tous les absents de Papillon. On espère qu'il y a des gens qui nous écoutent aussi en direct de la maison d'arrêt de la Talaudière. Donc aujourd'hui, on va pas trop rigoler. Enfin bon, en même temps, sur les sujets des prisons, c'est rare de pouvoir rire. Donc en fait, ce qu'on vous propose, c'est tout d'abord d'écouter une interview d'un gars qui s'appelle Hugo. Cette interview, elle a été réalisée par le journal et l'émission de radio L'Envolée sur Paris. Et voilà, c'est un gars qui a fait plus de 25 ans de tôle et qui raconte. Et nous, cette interview, elle nous a plu et on a trouvé intéressant de la diffuser parce qu'il revient sur des choses dont on ne parle pas souvent à propos de la tôle. Enfin voilà, on va vous laisser l'écouter. Alors après, ce sera assez long, ça va durer une heure. C'est un peu, des fois un peu dur. Des fois, nous, on n'est pas d'accord avec tout, mais on trouve vraiment que c'est très intéressant.
Oui, il faut s'accrocher pour l'écouter et pour suivre quand même, hein.
Voilà. Et après, quand même, restez bien à l'écoute parce qu'après, donc dans une heure, on va parler un peu de ce qui se passe à la Talaudière en ce moment, parce que donc à la maison d'arrêt, à l'intérieur, parce que non seulement c'est tendu, mais en plus la paix veut pas trop que ça se sache. Donc voilà.
Tiens, c'est bizarre.
Tiens, c'est bizarre. Hein. Et puis aussi, on va revenir sur le procès des inculpés de Villiers-le-Bel pour tentative de meurtre sur des policiers. Voilà, c'est toute une histoire qui nous a vachement écœurés. On essaiera de revenir un peu dessus vite fait. Donc voilà, après cette introduction très speed, on vous laisse écouter Hugo et interviewé par les gens de L'Envolée. Et nous, on vous retrouve dans une petite heure.
Voilà. Bonne écoute.
Dans une putain de cellule au premier étage.
Déjà est un ami. Je pense qu'à L'Envolée, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas reçu quelqu'un qui a eu un parcours carcéral très très long, hein, à savoir, tu frôles les 29 ans.
29 ans.
Voilà, 29 ans. faut parler dans le micro. Ouais, ouais. Ça, c'est un micro. Ils les ont construits pendant que tu n'étais pas là.
Ouais. Non, mais la dernière fois que j'ai parlé devant un micro, c'était devant les assises.
Alors. D'accord. Donc, ça va. Tu connais le truc.
Ouais, je connais.
Les questions que je voulais te poser, je ne sais pas trop parce que je n'ai pas fait de planning. Donc, on va avoir une discussion un petit peu à bâton rompu en espérant que les copains vont s'immiscer parce que ton parcours est, hélas, intéressant. Tu as été condamné une première fois à une peine de 20 ans.
Ouais, en 81 par devant les assises de Paris pour homicide et organisation d'exécution.
Voilà.
Qui s'est transformé en complicité d'assassinat.
Et ensuite, t'es sorti très peu de temps.
Je suis sorti en 92, ça a duré 13 mois.
13 mois, et ensuite, t'as été condamné à une peine de 30 ans de réclusion criminelle.
30 ans de réclusion criminelle pour meurtre en état de récidive.
Voilà. Et là, tu viens de, on va dire, entre guillemets, parenthèse et quatre murs, ouais. De sortir.
Je viens de ressortir, il n'y a pas très longtemps.
Il n'y a pas très longtemps, voilà, sous des conditions particulières qu'on ne va pas aborder, parce qu'on va aborder le départ.
J'étais recondamné aussi en 99 à 8 ans pour vol avec arme. Ça a été confusionné avec les 30 ans.
Ok. La question que je voulais te poser, c'est celle du départ, c'est-à-dire ta première grosse peine. Hein, t'as été incarcéré aussi gamin.
Oui, quand j'étais mineur.
Vers l'âge de entre 15 et 16 piges.
Ouais, 15 et 16 ans.
Voilà. Donc, ça veut dire que tu couvres un parcours carcéral qui va des années 70, grosso modo, aux années 2000.
Aux années 2000.
Ouais, ouais. Ça veut dire que t'as vu l'évolution intérieure, s'il y en a eu une. Moi, je pense qu'il y a eu une évolution au niveau du matériel, au niveau humain, non ?
Oui, sur un plan confort au niveau humain, je trouve que, au contraire, ça a vachement agressé, quoi.
Voilà. Bah, tu vas nous parler de ça. Là, t'as une théorie que tu défends, à savoir par rapport à ta récidive, le fait d'être tombé pour homicide volontaire. Et d'avoir purgé, t'as fait 14-15 sur 20.
La première fois, j'ai fait 14 sur 20.
14 sur 20. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu n'aies pas compris la leçon sociale du monde carcéral ?
Je l'ai pas compris. Puis je t'ai dit pendant 14 ans, il y a personne qui m'a parlé à l'époque. La plupart des gens qui me parlaient quand j'arrivais dans n'importe quelle centrale disaient ouais, tiens Hugo, t'es là pour meurtre, tout et tout, t'es un brave mec. Comment tu veux comprendre les choses comme ça ?
Bah, essaye de nous expliquer ça.
Ouais. Partout je passais, parce que bon, j'ai fait pas mal de prison sur ma première peine. Parce que partout où on m'envoyait, c'était à l'inverse d'où j'avais demandé. Parce que c'est normal, j'avais un parcours chaotique, alors c'est une petite vengeance de l'administration pénitentiaire. Tu demandes tel endroit, on t'envoie à l'opposé. Mais dans quelques centrales où j'arrivais, j'étais pratiquement chez moi. Parce que bon, les types avaient entendu parler de moi, on connaissait d'amis en amis et tout ce qui s'ensuit. Et partout où j'arrivais, j'étais bien accueilli. Dans la mesure où que c'était pas un délit pour meurtre. J'étais là pour meurtre, j'étais devenu un brave mec. T'es devenu un brave mec, c'est-à-dire que pendant 14 ans, on m'a glorifié dans mes actes. Comment tu vas en comprendre la profondeur quand c'est comme ça ?
Ben justement, essaye de nous dire un petit peu comment ça s'est passé. Parce que bon, t'as quand même obtenu une conditionnelle, une conditionnelle de misère. Hein,
j'ai obtenu une conditionnelle de 11 mois sur une peine de 21 ans, 3 mois exactement. Parce que bon, puisque j'avais, on m'a recollé 15 mois de sursis sur une peine.
T'étais pas vieux, t'avais quel âge à l'époque ?
Quand j'ai plongé, j'avais 24 ans et demi.
24 ans et demi ? Et ils ont rien fait pour t'aider ou pour te...
Non.
T'expliquer justement que t'étais pas ni un caïd, ni un brave mec d'avoir tué.
Non,
avec
non,
des guillemets, hein, je pose des questions pourries.
Non, mais absolument pas. Puis de toute façon, j'étais dans un refus total aussi de ma part. Hein, c'est-à-dire, je suis rentré, j'étais quelqu'un. Bon, je connais un petit peu mon parcours, je t'ai déjà expliqué.
Tu m'as rien expliqué, on est à l'antenne, les gens savent rien là.
Oui, non mais bon, c'est entre nous ça, c'est encore autre chose. Moi j'ai un parcours particulièrement violent. Aussi bien dans ma petite enfance, ça a commencé à l'âge de 7 ans, par des violences sexuelles chez les parents nourriciers chez lesquels j'étais placé. Ensuite, je me suis retrouvé chez mon père à l'âge de 10 ans. Son livre de chevet, c'était Mein Kampf. C'est pour te dire, c'est tout repos, quoi. C'était pas quelqu'un de gentil qui nous tabassait la gueule. Puis à 14 ans, bah, j'ai dit, halte là, hein, c'est fini, premier qui va me taper dessus, moi je vais aller au-delà de sa violence.
Et t'as été au-delà?
Et j'ai été au-delà. C'est-à-dire que quand j'avais 20 piges dans mon quartier, pratiquement tous les gens avaient peur de moi, quoi. Et quand t'as 20 ans, bah, après avoir subi, puis que les gens commencent à avoir peur de toi, c'est toi qui leur fais subir, c'est une forme de pouvoir. Et entre les mains d'un monde, c'est vachement dangereux. Alors c'était crescendo, et puis je te dis, bon, après il y a eu cette incarcération, cette condamnation à une peine de 20 ans, et puis personne ne m'a parlé, sur la deuxième peine, je suis tombé sur des gens sur lesquels je me suis arrêté, mais sur la première, bon, j'ai pas du tout envie de m'arrêter, quoi, j'ai pas du tout envie de m'arrêter, je suis tombé dans un contexte qui était aussi violent, la prison, c'est un univers vachement violent, et j'en sortais pas. Ma première peine était extrêmement chaotique, et puis je te dis, partout où j'arrivais, les gens me disaient, ouais, t'es un brave mec, t'es là pour meurtre, t'es pas là pour la pointe, t'es pas là pour un délit sexuel. Il y a personne qui m'a dit, Hugo, en fait, à la finalité, que tu sois là pour meurtre ou que tu sois là pour viol, à la finalité, il y a que des victimes, mais personne me l'a dit à l'époque.
Et qui c'est qui a fini par te le dire?
C'est des gens que j'ai rencontrés, puis moi aussi. C'est une réflexion.
T'as commencé, et comment t'es arrivé à la réflexion?
Arrivé à la réflexion, c'est...
Parce que c'est pas normal que tu sois là, vivant, à moitié en bonne santé, pas fou, après autant d'années de prison.
Je suis arrivé à cette réflexion, tu sais, c'est... Le choc, c'était quand même les 30 ans que j'ai pris dans la gueule, ça a été quand même un choc. De toute façon, comme je t'ai dit, à plusieurs reprises, fallait pas que je m'attende non plus à avoir des médailles. Mais quand j'ai pris mes 30 ans dans la gueule, j'ai dit, il va falloir que je réfléchisse, quoi. Si je veux sortir de là debout et bien dans ma tête, il va falloir que je réfléchisse quand même à tout mon parcours.
Joe, t'as une question à poser à Hugo?
T'es une personne idéale. En disant que t'es une proie idéale pour moi pour poser une question sur le meurtre. Mais sais même pas quelle question poser, quoi.
Pose-les. Pose les questions que tu as envie de poser.
Est-ce que tu, au moment où tu as la personne, elle est décédée, t'étais dans quel état, justement l'état, dans quel état est-ce que tu te souviens de quelque chose ou...
Oui, bien sûr, je vais te dire, tu sais, après coup, déjà tuer des gens, c'est pas quelque chose de particulièrement difficile, dans la mesure où c'est un acte qui est complètement lâche. Voilà.
Tu veux dire, et on se lâche en le faisant?
Non, c'est un acte lâche. C'est pas dur de tuer quelqu'un, t'as une arme à feu entre les mains, t'appuies sur une détente et la personne en face de toi, elle est morte. Bien souvent, ce qui m'est arrivé après coup, parce que malheureusement, je n'ai pas tué une seule personne, ce qui m'est arrivé après coup, c'est une envie de revenir en arrière, d'effacer ça, mais malheureusement, tu ne peux pas l'effacer.
Mais cette désir-là, tu l'as immédiatement ou tu l'as...
Pas sur le coup, tu sais, c'est assez difficile à expliquer ce que tu peux ressentir suite à un meurtre. J'ai occulté un petit peu ça, je te le dis franchement, j'ai occulté un petit peu ça, mais dans les heures qui ont suivi, je te le dis franchement, j'ai eu une envie de dire, j'aimerais que ça ne soit pas passé, quoi. J'aimerais que ça soit pas passé, mais tu peux pas revenir en arrière, malheureusement. Alors, t'es obligé d'avancer. Et puis, c'est aussi des situations dans lesquelles tu peux te retrouver. Ça peut être une impulsivité. Ça peut être une impulsion, simplement. Au bout de quelques heures, tu commences à avoir des regrets, à dire si ça s'était pas produit, t'aimerais bien revenir en arrière et tout ce qui s'ensuit. Tu vis avec ton malaise, mais malheureusement, t'es obligé de continuer à avancer avec.
Il y a un ange qui passe, je vais tirer dessus. Hein.
Tu sais, c'est... Ça n'a pas été... Vraiment après coup que c'était difficile à vivre. Ça l'est beaucoup plus aujourd'hui pour moi.
L'État fabrique des tueurs. Il y a des tueurs qui sont salariés, ça s'appelle des militaires. De temps en temps, ça s'appelle des policiers. Parce qu'un policier qui a un flingue sur le côté, c'est un tueur potentiel. C'est un tueur à gages. Tueur à gages dans le sens où il a une fiche de paye. Donc, il a des gages. Il a un salaire pour ça, pour porter une arme. Et un jour, il s'en sert et il tue. Et quand il tue, sa fiche de paye, elle continue à tomber. C'est un tueur légal. Donc, pourquoi ? Pourquoi un tueur légal n'aurait pas de remords, de culpabilité et des choses et de d'être profondément affecté dans son intime quand il tue, comme un militaire ou un flic ? Et pourquoi on demanderait une explication psychologique de rédemption, de remords à quelqu'un qui assassinerait quelqu'un d'autre ? Pourquoi on ferait deux poids, deux mesures par rapport à la mort ? Voilà. Et la vraie question, elle est aussi là-dedans. Si toi, Hugo, quand t'avais 20 piges, et je le dis avec des guillemets, tu m'arrêtes si tu veux m'arrêter, hein, si à l'âge de 20 piges, t'avais été enrôlé dans l'armée, t'aurais fait un soldat et un militaire parfait.
Non, parce que...
Non,
bon,
je parle pas du mec de 53 piges aujourd'hui. Ouais. Hein, je parle
non, 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 mais même à l'époque, à l'armée, ils ont pas voulu de moi, et puis moi, je voulais pas d'eux. Moi, j'ai vécu dans un climat d'extrême violence.
Aussi j'ai bien, entendu, tu disais ça. Là,
aussi dernière. Bien quand j'étais enfant qu'adolescent, et puis arrivé à l'âge adulte, mon parcours, il était fait que de violence. Maintenant, ce que je veux dire aussi par rapport à ça, c'est que ça explique certaines choses, mais ça les justifie pas et ça les excuse absolument pas non plus.
Et tu t'es senti au moment où tu as agi, tu te sentais en danger ou pas ?
Non, pas spécialement en danger. J'étais dans un contexte bien particulier. Je te dis un contexte hyper violent. À une époque, je pensais que j'avais un problème. Tu étais en face de moi, j'avais un problème avec toi. Je pensais que le fait de t'éliminer, ça allait résoudre mon problème.
D'accord.
Voilà. Il y a aussi un mal de vivre. Il y a plein de choses qui viennent se greffer derrière. Et je te dis, maintenant, ça s'excuse en rien, ça justifie absolument pas ce que j'ai fait. Et ça, je veux bien qu'on fasse le discernement avec ça. C'est pas parce que tu as un parcours pourri dans la vie que ça peut te permettre aussi toutes les exactions.
Et te tromper de cible.
Et le plus aberrant, tiens, je vais te le dire, c'est que moi, j'ai baigné aussi dans un contexte un petit peu politique, puisque mon père était d'extrême droite. Je me suis élevé contre pas mal de choses. Je me suis élevé contre la peine de mort, contre la justice et tout ce qui s'ensuit. Et j'étais un paradoxe ambulant, puisque j'ai fait le juge et le bourreau.
Parle-nous du suicide.
Hein ? Non, mais ça a été...
Pourri, hein.
Oui, non, mais bien sûr, c'était un sale passage. C'est sûr et certain. À un moment donné, quand tu vois, il n'y a plus de... Il n'y a plus rien qui se profile à l'horizon. Il y a des moments, c'est comme tout. Hein. T'as des hauts et des bas dans la vie. Puis en prison, t'as forcément plus de bas que de hauts. Et puis arrivé un moment, j'ai dit, va falloir que ça se termine. Quoi. J'ai essayé de trouver une porte de sortie.
Et ça a été celle-là ?
Non. J'ai pas de peau, tu sais bien, la corde et la corsée.
Ben justement, moi je crois, hein, je suis pas psy, puis je veux pas te faire une thérapie à deux balles, mais je crois que cet épisode de la pendaison, je te fais chier. Hein,
non, mais je sais bien que t'allais m'emmerder.
Je pense que cet épisode de la pendaison, parce que moi, quand je suis venu, je t'ai vu avec la cicatrice, ouais. Et ensuite avec la minerve.
Non, j'ai pas une minerve.
T'as pas une minerve ?
Non, mais
ils auraient pu t'enfiler.
Je pouvais plus jacter.
Ouais. Je crois que ce passage-là a peut-être été un déclencheur pour une autre gamberge.
Oui, ça aussi, c'est sûr et certain. Quand j'ai repris conscience, j'ai repris conscience sur le sol de ma cellule. J'avais de la merde pratiquement jusqu'au cou, j'étais pris de tremblements et tout ce qui s'ensuit. Ça a été un sale moment à passer. Et effectivement, ça m'a ramené une gamberge, c'est sûr et certain.
Donc comment t'as fait pour arriver à ressortir t'as fait 15 là. Hein.
Oui, 15.
T'as fait 15 sur 30. T'as réussi quand même, je vais pas dire un travail ou des choses comme ça. Tu as quand même...
Si, il y a eu un travail aussi. Hein,
ah bah essaye de nous en parler. Si
il y a eu un travail. Déjà, il y a eu mes rencontres.
Dis au mec à l'intérieur ce que c'est que des rencontres.
Il y a toi.
Oui, bah ça, on passe.
Non, bien sûr, c'est une rencontre parmi tant d'autres. C'est pas... C'est pas anodin. J'ai rencontré des gens qui se sont arrêtés sur moi et qui m'ont parlé, qui m'ont interrogé. Et puis, voilà. Et moi, je me suis aussi arrêté sur eux, ce que j'ai pas fait à ma première peine. Il y a eu énormément de rencontres tout au long de cette peine. Ça a été quand même assez déclencheur en 2003. Une rencontre avec une psy qui était quand même assez intègre dans son boulot, avec laquelle j'ai travaillé pendant 3 ans.
Et qui a amené à des choses.
Qui m'a amené à des choses, ça c'est sûr et certain. Au début, quand j'étais la voir parce que bon, ça faisait 25 ans que j'étais au placard. Je me suis dit, tiens, on va faire un petit bilan de mon état moral et mental. Hein. M'a reconvoqué la semaine d'après, elle a été patiente. Elle m'a fait mettre à table ce que les Condés n'ont jamais réussi à faire, mais voilà, elle l'a fait. Elle l'a fait, on est repassé par mon enfance, toutes les phases douloureuses, tout. Et on a travaillé aussi sur les victimes.
Qu'est-ce que tu peux dire quelque chose des victimes?
Moi, je les ai.
T'as quand même une façon de penser. Oui, c'est les mots, hein, sur la vie et la mort, sur ta propre mort, parce que toi, t'as failli mourir souvent.
Oui, à plusieurs reprises. Ouais, j'ai déjà été blessé par balle. Je me suis accroché. Je me suis retrouvé dans le coma en 2005 suite à une opération. Ouais, je suis passé au travers pas mal de fois. Quand.
T'es passé au travers pas mal de fois. Donc le fait de passer au travers comme ça, tu penses que ça t'a rapproché au niveau des personnes que t'as flinguées, quoi.
Il y a
un lien qui s'est fait. Parce que là, on est dans la prison et on n'est plus dans les histoires de murs, de barreaux, de plafonds. On n'est plus là-dedans. On est vraiment sur ce que moi je pense être la vraie prison, c'est-à-dire celle qu'on a dans la tronche.
Celle qu'on a dans la tronche, tu sais. Moi, je me rappelle par le passé, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, Hugo, si tu les as tués, c'est parce que ça devait être des gros enculés. Non, c'était pas les gros enculés. Non, c'est simplement, t'as des stades de ta vie, t'es en pleine violence, t'es complètement déphasé, puis ils sont là alors qu'ils auraient pas dû être là. Mais c'est pas pour autant qu'ils méritaient de mourir. Tu sais ce qui me... Je vais dire un truc qui va peut-être en choquer certains, tu vois.
Choc, on est là pour
on a,
ça.
On parle de pointeur. On dit, ouais, tu te rends compte, un tel, il est là pour la pointe, les séquelles aux victimes. Moi, déjà, dans mon corps, il y a des séquelles aux victimes, il y a les familles des victimes. Et puis, je vais dire un truc, entre un viol et un meurtre, le meurtre, c'est l'acte le plus extrême qui soit, le plus violent qui soit.
Irréparable. Et le viol?
Le viol, une personne, elle a encore la possibilité de se reconstruire.
Peut-être.
Ouais. Non, mais je dis, ouais. elle a toujours la possibilité. Que le mec, quand il est au fond de la tombe, il n'a plus aucune possibilité, à moins qu'il ait des dents qui poussent et qu'il commence à se promener avec une grande cape. Mais bon.
Ça, c'est nous, ça.
On va revenir un petit peu sur le travail qui a été fait avec la psy.
La psy. On va quand même mettre un petit peu d'humour dans tout cette noirceur.
Non, mais je te dis,
tu as dit une fois à un psy que grâce à lui...
Non, c'est une fois, j'ai ma fille, je me présente avec un pote à moi, puis elle dit à mon pote, elle dit, voyez, vous devriez faire, je ne peux pas dire mon blague, comme Hugo, c'est-à-dire de voir un psy, parce que lui, ça semble particulièrement bien lui réussir. Et moi, je l'ai regardé pince sans rire. Je lui ai dit, ouais, je lui ai dit, ça m'a réussi tellement bien que la prochaine fois, je tuerai quelqu'un. Après coup, j'aurai des remords. Elle s'est barrée, elle s'est pété de rire. Elle m'a dit, je devrais pas, mais je la trouve amusante.
Quand c'est drôle, c'est drôle.
Voilà.
Donc, tu voulais revenir un petit peu sur le...
Ouais, sur le travail qui a été fait avec la, psy.
En sachant que la majorité des mecs voient un psy une fois tous les 15 jours, un quart d'heure, et ils retournent dans leur cellule avec leur misère. Hein.
Oui, bien sûr. Non, mais bon.
Alors toi, t'as accroché comment?
Bah, je suis tombé sur quelqu'un de consciencieux, d'extrêmement patient, et puis qui m'a fait mettre à table progressivement. Je veux dire, on est passé par différentes étapes. On a même travaillé sur les victimes. Ça n'a pas été sans douleur non plus. Hein. Tu sais que c'est. Il y a des moments, je suis rentré en CU, je me suis effondré. C'est une fois, elle m'a posé une question complètement anodine. Elle me dit, ouais. Qu'est-ce que vous auriez pu faire si vous n'aviez pas passé toutes ces années en prison, tu vois? Sur le coup, j'ai pas su quoi lui répondre, tu vois. Puis Après, quand j'ai vu les potes, j'ai parlé un petit peu avec eux la question qu'ils m'avaient posée. Tu sais, quand t'es avec les potes, tu fais un petit peu le cacou, tu vois. Et puis, quand la porte, elle s'est fermée à 19h30...
T'es seul avec ça.
T'es seul avec ça. Et la question, elle fait mal.
Et la réponse ?
Bah, la réponse, tu peux pas la trouver. Qu'est-ce que t'aurais pu faire ? Qu'est-ce que t'aurais pu faire durant toutes ces années ? T'aurais pu faire plein de choses. Plein de choses. C'est là que tu te rends compte un petit peu... de toutes les choses à côté desquelles t'es passé. Toutes les choses, des gens à côté desquels t'es passé, ce que t'as pas vécu, quoi. T'as pas vécu. C'est là où je deviens caustique, et puis je te dis, je regarde dans ma cellule, et puis je me fais le bilan de 30 ans, de 55 années d'existence, quoi. Un poste radio, une console PlayStation, tout, c'est dur. Comme constat, c'est dur.
Tout à l'heure, tu l'as un peu abordé, en fait, une évolution de la population et de l'ambiance carcérale.
Des années 70 à aujourd'hui, oui.
Ouais, voilà, depuis, avec surtout maintenant, plus un recentrage sur chacun chez soi et plus de mouvements collectifs et l'importance de la télé dans ce truc-là, en fait, dans cette évolution.
Oui, bien sûr que la télé n'est pas innocente. Moi, je me rappelle la première fois que je suis entré en prison. Dans les années 70, je suis aussi passé par Fleury Mérogis. À une certaine époque, l'ennemi du détenu, c'était le surveillant. Maintenant, à l'heure actuelle, l'ennemi du détenu, c'est le détenu. Voilà. Il y a eu l'arrivée de la télé en 86, qui a fait avaler plein de choses. Déjà, moi, je me rappelle quand elle est arrivée à Saint-Mans en 86, on était dans les premiers à l'avoir, c'était pour la Coupe du Monde. Et puis, tout le monde a occulté le fait que fin 86, Chalandron, qui était ministre de la Justice, a réduit les grâces qui, à l'époque, pouvaient monter jusqu'à 9 mois. Je vais expliquer un petit peu le processus. Les a réduites à 5 mois maximum. Avant cette loi-là, quand c'était en fonction de ton comportement, tu avais le droit à 3 mois de remise de peine normale, ensuite à 3 mois de remise de peine supplémentaire, et de surcroît, quand tu passais un examen ou un diplôme, tu avais le droit à 3 mois, si bien que les quartiers socioculturels étaient pleins. Notre combat à l'époque, c'était afin que les mecs qui faisaient l'alphabétisation et tout ce qui s'ensuit n'attendent pas d'aller jusqu'au certificat d'études pour choper 3 mois de grâce, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, on leur fasse passer un examen. C'était ça, notre combat, pour qu'ils puissent toucher 3 mois. Simplement, Chalandon, avec sa loi, il a enculé tout le monde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Quand il a passé sa loi et puis que les mecs pouvaient plus toucher 3 mois de grâce par examen, les quartiers socioculturels ont commencé à se déserter. Et la contestation, elle venait de là aussi. Il y avait une certaine élite intellectuelle qui se formait aussi au quartier socioculturel. Et les mecs discutaient entre eux. Moi, je me rappelle, à Saint-Maur, t'avais tout un groupe de détenus qui pouvaient suppléer à n'importe quel prof.
Oui.
Quand les profs étaient en vacances, les cours étaient dispensés par des détenus. C'était des tronches. Après cette loi-là, les quartiers socioculturels se sont un petit peu désertés. Il y a eu moins de contestations et chacun s'est replié chez lui, regardait sa petite télé, tout ce qui s'ensuit. À l'époque, les gens étaient politisés, à l'heure actuelle, ils ne sont pas. T'entendras beaucoup plus des gens te parler des résultats d'un match de foot que du dernier discours de Sarkozy ou de Fillon ou de Perben qui nous enculent tous, quoi. Voilà.
Cette pseudo-élite intellectuelle, il lui arrive quoi ? Parce que moi, je pense qu'elle tourne dans les quartiers d'isolement.
Oui, elle tourne dans les quartiers d'isolement, bien sûr. Non, mais ça c'est évident. C'est évident. Elle tourne dans les quartiers d'isolement parce que à partir du moment que tu commences à mettre ton intellect en avant pour contester, on te fait fermer ta gueule. On te fait fermer ta gueule. Le mec qui, à l'heure actuelle, ne prend pas la télé en prison, il est considéré comme un martien. S'il se lance dans les études, s'il se lance dans quelque activité que ce soit et tout ce qui s'ensuit, qui sort un petit peu des sentiers battus, ben on n'a pas trop envie d'entendre parler de lui. On dit, généralement, on dit ça va être un fouteur de merde.
Et les fouteurs de merde, ils en font quoi ?
Ouais, ben les fouteurs de merde, ils les mettent dans les quartiers d'isolement.
Et comment t'as réussi, toi, à ne pas être un fouteur de merde ?
Parce que cette fois-ci, je les ai pas calculés. Tu te rappelles celui qui me fouillait la cellule régulièrement, Fleury Mérogis ? Juste quand il nous avait séparés, parce qu'on était trop bien avec Polo. m'avait mis dans la cellule à côté. Hein. Ça faisait des années que je me tapais pour elle seule. Et puis, comme par hasard, on est trop bien à trois, ils me mettent seul. Je m'en rappellerai toujours. J'ai un maton, il s'amusait à me faire des fouilles de cellules pratiquement en permanence à chaque fois qu'il était là. Puis un jour, ils m'en fait une. Il me fait sortir de la douche, je rentre dans ma cellule, je lui dis je vous remercie. Elle me dit pourquoi vous me remerciez ? Je lui dis vous savez, de passer 22 heures sur 24 en cellule, c'est pénible. Vous allez m'occuper pendant une heure, le temps que je range mes affaires. Tout. Je lui dis allez, retournez vous asseoir sur votre chaise. Je lui dis pour moi, vous avez la même couleur que les murs. Faites partie du mobilier.
Donc il y a quand même une manière. Il y a quand même une manière, sans être un fouteur de merde, de les faire chier.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est aussi des fois de pas trop rentrer dans leur jeu. Ça, des fois, faut l'éviter aussi.
Faut l'éviter.
Maintenant, c'est toujours pareil. Il y avait aussi ce qui a joué aussi beaucoup au cours de ces dernières années. C'était aussi une problématique de santé.
Ouais, mais on va parler un peu du médical parce que t'as eu des graves problèmes de santé. Je veux pas rentrer dans des détails cracra.
Non. C'est vrai qu'en 2003, je me suis, j'étais à Saint-Maur un soir, impossible de respirer. Je me rappellerai toujours. Il était 23h20. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai extrêmement de mal à respirer. J'appelle à l'interphone. Pas de réponse. J'appelle mon voisin de cellule. Je lui dis, tiens, Lulu, tu peux appeler à l'interphone parce que, apparemment, le mien, il doit pas marcher. Il appelle. Il me dit, non, le mien non plus, il doit pas marcher. Voilà. Bref, je me mets à la fenêtre. Je pompe comme un malade pour respirer au mieux. Ça me fatigue un petit peu, tout. Je vais m'allonger. À minuit, deuxième crise, mais là, un petit peu plus sérieuse. Encore du mal à respirer. Je rappuie à l'interphone. Rien du tout. Hop. Mais celle-là, je pompe comme un malade à la fenêtre, elle m'épuise tellement, je m'endors. Je me réveille à 2h20. Alors, j'ai appelé 11h20, je me réveille à 2h20, elle est impossible de respirer. Je rampe, mais il n'y a pas d'autre mot, je rampe jusqu'à ma porte. Je me rappelle, j'avais une grosse planche sur mes toilettes. Les toilettes sont toujours découvertes. Hein. Et je prends la planche et je tape comme un malade dans la porte. Et là, j'entends une voix de nana au téléphone qui me dit, qu'est-ce qu'il y a ? Et elle savait que c'était moi qui avait appelé. Donc, ça avait bien enregistré au niveau de l'interphone. De là, ils ont fait déplacer le Bricard qui m'a posé quelques questions. Vous avez mal où? Vous avez mal ici et là?
Mais il est médecin, le Bricard.
Non, il n'est pas médecin. Je lui ai dit, j'ai mal partout et voilà, mange ton cul. Après, ils sont venus avec un fauteuil roulant. Ils m'ont emmené jusqu'à l'infirmerie. De l'infirmerie, ils ont appelé le SAMU, qui, lui, dans l'état dans lequel il m'a vu, tout de suite m'a mis sous perfusion, m'a shooté à grand renfort d'antibiotiques, et ils m'ont emmené en urgence à l'hôpital de Châteauroux, sans même attendre l'escorte policière. Tu vois, des fois, ils font diligence un petit peu.
Oh, ils pensaient que t'allais caler, fallait que tu cales dehors.
Et de là, j'ai passé 36 heures sous oxygène, ils m'ont déclaré une BPCO, c'est bronchite chronique pneumo-obturatoire, consécutive au tabac. Et le matin, je me rappellerai toujours, j'ai vu l'infirmière. Elle m'a dit, je lui dis, je me sens pas très très bien, j'ai la crève et tout ce qui s'ensuit. Elle me dit, bon, mais je vous inscris pour le médecin, vous le verrez demain matin, tu vois. Et quand je suis sorti au bout de mes 36 heures d'hôpital, j'ai vu cette fameuse infirmière qui m'a dit, j'ai quand même vu que votre cas était sérieux, hein, je vous avais quand même inscrit pour le médecin. Je lui dis, ouais, pour le lendemain matin, quoi, c'est, voilà.
Et ensuite, tu es passé, toi, plus au bloc opératoire.
Oui, après, en 2005, comme j'ai fait une occlusion intestinale, fallait que je m'y attende puisque j'étais blessé par balle au niveau de l'estomac dans les années 70. Encore une bonne. Et j'ai fait une occlusion intestinale. Et de là, j'ai été évacué sur l'hôpital d'Evry. On m'a opéré à l'hôpital d'Evry et on m'a injecté de l'héparine. C'est un anticoagulant. Couramment employé en chirurgie, il y a une personne sur 1 million qui est allergique à cet anticoagulant, ça m'est tombé en plein dessus. Voilà, avec le pouls qui me caractérise, j'ai passé 3 semaines dans le coma, quoi, avec des phases d'éveil particulièrement douloureuses. J'ai fait une double embolie pulmonaire, une pneumopathie aiguë.
Alors je peux poser ma deuxième question pourrie?
Ouais.
Tu t'accroches au fauteuil? Est-ce que tu penses que tes raisons de santé, tes raisons médicales sont pour quelque chose dont t'as sorti?
Non, elles sont pas entrées.
Tu sens la question pourrie derrière. Hein.
Oui, elles sont pas entrées en ligne de compte.
Non.
Elles sont pas entrées en ligne de compte. Simplement, c'est vrai que les 3 semaines dans le coma m'ont amené à une autre réflexion un petit peu sur la mort. Toujours une réflexion par rapport à mes victimes. Parce que tu sais, on a beau dire, ouais, à tes... moi j'ai ressenti, c'est... je te dis, je me suis vraiment senti mourir. Et puis c'était cette sensation, elle a été inhérente à la souffrance. J'ai morflé. Douloureusement, ça a été... À chaque fois que j'étais en phase d'éveil, j'avais hâte qu'on me replonge dans le coma, parce que j'avais vraiment, vraiment très, très mal. Et cette souffrance, effectivement, une fois que j'en suis sorti, je l'ai quand même associée à mes victimes, quelle que soit la façon dont tu tues les gens, même très rapidement, une fraction de seconde, je me dis, ils ont dû énormément souffrir quand même, quoi.
Look at y'all. Here come that old chick, talking about she's from New York. Got Mississippi written all over her. You better stop trying to run my business. I have to do what I hate to do, yeah. I'd like to know what it is you wanna do. You better stop trying, yeah, yeah, to run my business. What it is you want to do with that business you got. I'll talk about you. Low down and dirty shop. There's a whole lot of things I can say about you. Every word I say I'll
be true. Voilà, donc pour rappel, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Papillon sur Radio Dio 89.5. Et pour resituer pour les gens qui ont pris en route, là vous écoutez une longue interview de Hugo, un gars qui a fait 25 ans de tôle et qui raconte un peu tout ça au collectif L'Envolé. Et ben nous, on l'a trouvé intéressant, donc on leur a piqué l'interview. Donc on en est à la moitié, et vous allez entendre la suite de l'interview dans quelques minutes après la fin de la chanson. Et nous, on se retrouve tout à l'heure.
On va détendre l'atmosphère. Hein. On va parler un peu de cul. Voilà. Hein, ça dérange pas. On va parler trivialement parce que les mots sont les mots, et puis la vulgarité, elle est dans le ton et pas dans le langage. Qu'est-ce que ça veut dire un homme ou une femme qui se masturbe pendant 20 piges? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contact physique, qu'il n'y a aucun contact avec l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je vais développer quand même un peu, hein, je vais te foutre sur la piste. Parce que moi, je pense que plus la personne est frustrée, et c'est peut-être aussi pour ça que les relations sexuelles sont interdites dans la majorité des prisons, pour pas dire dans toutes les prisons, hein, puisque les fameux UVF, la unité de visite familiale, m'apparaissent en France, hein, je parle pas dans d'autres pays, mais en France m'apparaissent un peu comme du bluff. Qu'est-ce que ça veut dire que cette castration sur le long terme des prisonniers et des prisonnières, et aussi comment la sexualité dans l'esprit du prisonnier ou de la prisonnière finit par se développer, et qu'elle amène à quoi?
Elle amène à quoi? C'est là le sujet, il est complexe.
Ben, on a le temps.
Déjà la sexualité intramuros, bon, c'est c'est des années de masturbation, puis depuis la télévision, depuis l'accès à certaines chaînes câblées, c'est de la masturbation à travers la pornographie. Et simplement le type qui a cette sexualité, c'est-à-dire qui a plus aucun contact avec l'extérieur, le jour où il se retrouve libre dans sa tête, c'est vachement difficile. C'est vachement difficile. Moi, je sais que depuis que je suis sorti, mais à plusieurs reprises, arrivé d'avoir des relations, mais je te garantis que ça se passe pas sans mal, quoi.
Oui.
C'est un film. Tu te fais un film.
Je vais pousser ma question au fond.
Ouais. C'est le cas de le dire.
C'est fait exprès. Hein. Tu sais que je suis un vice-là. Donc, ma question, elle était là on aborde le sujet, tu vois, on tourne autour du pot. Mais ma question était un peu plus osée, parce que je pense et peut-être à tort, les gens à l'extérieur, c'est-à-dire les gens qui connaissent pas la prison, les gens qui sont dehors, ont une répercussion de la sexualité carcérale ultra violente. Voilà, pour résumer, on s'enfile tous les uns dans les douches.
On s'enfile tous les uns les autres dans les douches.
On est hyper violent, hyper brutal avec nous. Ouais. Et j'aimerais bien qu'on parle de cette mythologie-là.
C'est en permanence des viols dans les cellules et tout ce qui s'ensuit.
Ça, c'est ce qu'on nous répercute. Voilà, la réalité, c'est laquelle?
C'est ce qu'on répercute. La réalité, elle est tout autre. Des viols, ça arrive à se produire. Comme ça peut arriver à se produire aussi à l'extérieur. Mais c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. L'homosexualité, t'en as en prison comme t'en as partout. T'en as pas plus qu'ailleurs.
Oui, il y a des homosexuels qui commettent des crimes, qui font des hold-up, qui font du trafic de cam, qui tuent leur mari. Ils arrivent en prison comme les autres.
Oui. Ils arrivent en prison comme les autres.
Voilà. Mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'on parle de ce mythe-là. Parce que ce mythe-là, quand tu as affaire à des personnes non affranchies, non initiées, qui savent rien du monde carcéral, et que tu leur dis, j'ai fait tant d'années de prison... Ils peuvent pas s'empêcher de penser dans leur tête parce qu'ils ont toute l'imagerie politique. Parce que là, elle est politique. L'imagerie des films, l'imagerie des séries comme Oz, les séries américaines, etc. Ils ont toute cette imagerie de se dire, de toute façon, les tolards sont des barbares qui n'arrêtent pas de s'enfiler les uns les autres. Et ça serait bien de casser ce putain de mythe. Parce que je donne un exemple tout simple. Et je radote peut-être, mais je m'en fous. Tu as deux gamins qui n'ont jamais fait de prison, qui volent une voiture. Il y en a, ils se font arrêter. Sur les deux, il y en a un qui arrive à prendre la fuite. Les flics donc arrêtent un des gamins qui est primaire, qui sait rien de la prison, et ils lui disent si tu dénonces pas ton copain, tu vas en prison. Si tu vas en prison, là-bas, les gros costauds, ils vont te violer. Ensuite, ils mettent le gamin tout seul dans une cellule pendant son temps de garde à vue, et le lendemain matin, ils lui disent alors t'as réfléchi. Et le gamin qui s'est passé tous ces films, justement dont on parle, ça va de Midnight Express à cette saloperie de Oz, où Oz c'était le feuilleton des prisons, ou alors Prison Break et autres, même des films français. Le gamin il dit le nom de mon copain qui s'est sauvé, c'est celui-là, parce que il a passé une nuit entière sur la fantasmagorie. Donc pour moi c'est un outil politique de dire qu'on est des barbares et qu'on s'enfile.
Mais ce qui sait pas le gamin, c'est quand les flics lui présentent la chose, c'est que normalement c'est quand il va arriver en prison, ça va être les gros costauds qui vont le protéger.
Explique-nous ça.
Voilà, mais
explique-nous ça parce que c'est important.
Ouais, c'est les gros costauds qui vont le protéger. Il n'y a personne qui va le toucher. Ils vont le prendre sur leur aile.
Développe.
Développe. C'est... Non, mais le mythe du gamin qui arrive, qui est tout frêle, qui arrive en prison et qui va se faire sodomiser dans tous les coins, justement, c'est un mythe. C'est un mythe. Il sera reçu. On va lui montrer un petit peu l'univers dans lequel il évolue. Il sera protégé, contrairement à ce qu'on pense.
Donc, c'est bien de le dire.
Non, c'est pas des barbares, les tolards, c'est pas des mecs qui violent les uns les autres. C'est des mecs qui sont qui ont des surcharges émotionnelles, peut-être beaucoup plus que certaines personnes à l'extérieur, simplement qui les montrent pas, qui les cachent. Et je te dis, quand un môme arrive en prison, il est pas violé, il est protégé, on l'aide dans son parcours aussi.
Est-ce que le prisonnier a vraiment besoin de pornographie? À quoi sert cette image pornographique? Est-ce que à ce point-là l'imagination est asséchée? Est-ce que à ce point-là il n'y a pas d'autres outils?
Non, il n'y a pas d'autres outils. Tu sais, ça dépend du temps que tu passes intramuros. Peut-être qu'au bout de quelques années, tu vis encore avec tes fantasmes par rapport à l'extérieur. Mais au bout d'un certain nombre d'années, non, tu passes par la pornographie automatiquement. T'as pas d'autre choix, t'oublies. T'en arrives à oublier l'image des femmes que t'as connues, que t'as aimées. Le temps, c'est quand même quelque chose de pernicieux. Je parle pas au bout de 5, 6 ans, voire de 10 ans, mais quand c'est au bout de 20 ans, 25 ans... Ouais, je sais développer, c'est pas tellement facile sur le sujet, c'est pas facile. Parce que bon, y a,
je fais une petite pause musicale et puis on en parle.
Il y a toujours des réserves. Non, on va en parler. moi, ce que je veux dire, c'est je me fais des films, quoi. Carrément, des fois, je m'en retrouve dans un lit avec une femme, je suis obligé de me faire un film. Je m'alimente par des images que j'ai vues pendant des années pour aller jusqu'au bout de ma relation. Sinon, je peux pas.
Et à ton avis, ça s'appelle quoi?
C'est de la violence comme c'est de la frustration. C'est les deux à la fois. Il y a des moments, ça m'exaspère.
Et pourquoi t'en es arrivé là? Et pourquoi beaucoup, pas tous, hein, mais beaucoup en sont arrivés là?
Parce que c'est pas touche. C'est tu fais venir tu sais, t'as toujours moyen quand t'es incarcéré, parce que t'as toujours des personnes qui sont un petit peu malsaines, qui sont attirées par les détenus, en se disant justement ils ont pas de relations sexuelles et tout ce qui s'ensuit, ils sont prêts à sauter sur n'importe quoi. Je vais venir le voir au parloir. Mais la nana, elle vient te voir au parloir, mais
Inversement. Que ce soit un homme ou une femme incarcérée. Oui.
Un homme ou une femme incarcérée, mais moi je te parle de mon cas. J'ai la nana qui est devant moi, et puis d'un côté, on va te dire pas touche. Pas touche.
Développe.
Tu peux pas lui faire un bisou, tu peux pas la prendre sur tes genoux. T'as certains parloirs comme ça en
pas
France.
Pas de tendresse.
Pas de tendresse.
Mais qui c'est qui dit pas de tendresse?
Ah, c'est l'administration pénitentiaire, tout ce qu'ils te mettent comme obstacle. Moi, je connais.
Mais pour en parler, c'est quoi les obstacles? Parce que toi, tu sais, mais ceux qui nous écoutent, ceux qui sont à l'intérieur, savent aussi.
Les obstacles, déjà, bon, quand t'es dans un parloir au vu et au su de tout le monde, t'as un surveillant qui va faire l'aller-retour toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, tu vas prendre ta compagne, ta copine, ta visiteuse sur les genoux, le surveillant va arriver en courant, il va te dire stop là. Stop là. Par contre, Même quand c'est de la tendresse.
Même quand il n'y a rien de sexuel.
Quand il n'y a rien de sexuel, je l'ai vu dans de nombreux parloirs.
Alors,
ça.
Putain de Dieu, pourquoi ils font ça?
Parce que c'est peut-être aussi quelque part des frustrés. C'est à une époque, on disait tiens, c'est. Ce qui est aberrant, c'est que les surveillants, c'est des pauvres qui gardent des pauvres.
Ça me fait penser au capot, en fait, ce système d'avilir la personne, de lui faire comprendre qu'il n'est même pas un humain, et que parce que lui-même n'est pas un humain, il ne se considère même plus comme un humain, donc il faut que la personne qui soit en face de lui se sente encore plus inférieure à cet état, et ça passe par l'avilissement, par la frustration.
Oui, non, mais il y a de ça. C'est pareil, par exemple, t'as Fresnes. Fresnes, la maison d'arrêt de Fresnes. T'as ce qu'on appelle maintenant, depuis X années, des parloirs libres. Entre ta famille ou ta compagne et toi, il y a un muret, à mi-hauteur d'homme, ce qui te permet aucun contact. Et si t'as le malheur de lever de ton tabouret pour embrasser ta compagne, ton ami ou autre, même ton gosse, t'as le surveillant qui intervient tout de suite, quoi, parce que les surveillants font des allers-retours.
Les prisonniers et les prisonnières ont un libre accès à la pornographie. Ce qu'il y a au niveau des États, hein, c'est-à-dire au niveau des gouvernements, on va pas sous-estimer leur intelligence, parce que c'est pas des imbéciles. Il y a des psychologues, il y a des politologues, il y a des intellectuels qui travaillent pour le gouvernement. Donc ces politologues, ces sociologues, ces psychologues, ces psychiatres qui bossent pour le gouvernement, qui font des rapports, n'ont pas dit encore aujourd'hui, il faut qu'il y ait une sexualité à l'intérieur des prisons, que l'homme qui est marié avec sa femme puisse avoir des relations, que la femme qui est mariée avec son homme puisse aussi avoir des relations. Donc c'est un outil politique d'incarcération. C'est ça. Parce qu'ils savent très bien, il y a un proverbe de je ne sais plus qui a dit que le mets, les desserts, hein, les mets, on va oublier le mot, les desserts préférés de Dieu, c'est le cerveau et le sexe. Voilà. Donc par rapport à ça, il y a une volonté politique, c'est à ça que je veux en venir. Il y a une volonté politique par rapport à l'incarcération de dire que le meilleur moyen de détruire un individu, hein, c'est de lui empêcher toute affectivité. Donc, il fabrique des monstres, mais il les fabrique en pleine conscience. Maintenant, c'est plus l'imbécile de surveillant qui passe et à qui le règlement dit « Surtout, vous ne les laissez pas se serrer dans les bras, vous ne les laissez pas s'embrasser, vous ne les laissez pas faire ceci et cela. » Ce n'est pas tellement ce surveillant qui est en cause. Lui, c'est un abruti qui a un règlement. Tu vois, c'est à très très haut niveau, il y a une volonté politique de dire « On peut tenir le carcéral, on peut fabriquer des gens dangereux sexuellement, parce qu'ils nous font un pataquès hein, là-dessus, hein, à l'extérieur. À chaque fois qu'ils nous mettent une peine de sûreté, une peine de rétention, une peine de machin, à chaque fois, ils nous, ou même les prises d'ADN, à chaque fois, ils nous parlent de sexualité. C'est-à-dire que ces putains de frustrés de l'État nous parlent à chaque fois de sexualité. On va taper sous la ceinture. Voilà. Donc il y a une volonté politique. C'est à ça que je veux en venir. Parce que je m'en fous, moi, de l'histoire de cul.
Ouais, ouais. Non, mais bien
c'est à
sûr.
Ça que je veux en venir.
Et depuis quelques temps, quand même, il y a certaines personnes qui ont défrayé la chronique, qui ont été incarcérées pour différentes histoires, meurtres, braquages et tout ce qui s'ensuit, mais qui n'avaient jamais commis un acte de viol. Et qui, pour eux, à une certaine époque dans les prisons, le viol, c'était quelque chose de répréhensible, d'abominable et tout ce qui s'ensuit, et qui, au bout de X années, sont sortis et se sont retrouvés impliqués dans des histoires de viol et de meurtre.
Développe-nous ça.
C'est toujours pareil de développer ça.
Enfin, c'est par intuition.
Par intuition, c'est assez dur parce que bon, ces gens-là, je les connais pas personnellement. Mais tiens, je vais en citer un autre. C'est pas dans le même cas. C'est le Chinois qui a été entre parenthèses, qui a été incarcéré quand même à plusieurs reprises pour des histoires de braquage et tout ce qui s'ensuit. Quand il est sorti de sa mort, il a dit la prochaine fois que vous allez m'arrêter, ça sera pour un bain de sang. Et ils l'ont fabriqué. Ils l'ont fabriqué quand il a replongé. On a vu ce qu'il a fait en l'espace de quelques mois. Entre parenthèses, parce que voilà, on peut pas présumer de quoi que ce soit. Mais voilà, ils te fabriquent des gens comme ça, aussi bien sur le plan sexuel. Sur le plan sexuel, on en a noté un autre. Qui a été jugé il y a quelques mois en arrière. Qui avait été incarcéré pour des histoires de meurtre et de braquage et qui s'est retrouvé incarcéré et passé en jugement pour des histoires de viol sur mineur, de séquestration et de meurtre sur mineur. Et le type n'avait jamais commis un viol auparavant. Tout son parcours avait été parsemé
de délinquance classique,
en allant du braquage au meurtre, ça c'est sûr et certain, mais qui était peut-être le premier à condamner les violeurs qui se retrouvent impliqués dans des histoires comme ça. À croire que ces gens-là sortent...
Et c'est à ça que je voulais en venir.
Voilà. Et hyper, hyper frustrés, hyper violents sur le plan sexuel.
Donc on peut dire à ces connards de gouvernants, que ce soit en France ou n'importe où, dans n'importe quel pays du monde, où la sexualité est interdite à l'intérieur des prisons, que ce sont eux qui fabriquent aussi.
Oui, bien sûr. Moi, j'étais pendant quelques années dans une centrale comme Saint-Maur. À Saint-Maur, le système des parloirs est quand même assez particulier. T'as le droit à 14 heures par week-end, ce qui est quand même assez considérable quand on compare à n'importe quelle prison.
Oui, pour les gens qui ont les moyens de venir.
Oui, pour les gens qui ont les moyens de venir.
Et mais qui sont bon, rares. Quand même.
Malgré tout, c'est quand même 14 heures sur un week-end. C'est des petits box, et au début, il y a certains détenus qui sont descendus avec des serviettes, des grandes serviettes de bain, et qui les ont mis devant leur box. Voilà.
Et pourquoi ils ont mis devant leur box?
Voilà, pour être tranquille avec leur.
Oui, donc
avec
ça leur sert
femme.
De paravent.
Voilà, ça leur sert de paravent.
C'est-à-dire pour les gens extérieurs qui ne peuvent pas piger.
Ça leur sert de paravent, c'est-à-dire pour ne pas être au vu et au-dessus de tout le monde, des enfants qui passent, du surveillant. Et au début, les surveillants se sont amusés à enlever les serviettes, à prendre les gens à boule pour point, comme ça, en flag. Il y a eu quelques rapports d'incidents qui ont été faits. Mais quand ils ont vu les réactions des détenus, parce que quel que soit le détenu, s'il est pris en plein acte sexuel avec sa nana, puis il commence à se faire embarrer par le surveillant, le plus lâche des plus lâches, devant sa nana, il baissera pas les yeux, il devient agressif vis-à-vis du surveillant. Si bien qu'à un moment donné... Ils ont toléré, il y a eu des enfants qui ont été faits au parloir et tout ce qui s'ensuit. Et tous les types qui avaient des relations au parloir, je te garantis qu'en détention, tu le ressentais, ils devenaient vachement plus humains.
J'étais surprise qu'il n'y ait pas beaucoup de parloirs sexuels, entre guillemets, en prison en France. Tu me disais qu'il y en avait...
3-4 prisons.
3 UVF à l'heure actuelle connues, c'est Poissy, Saint-Martin-de-Ré et Rennes.
Donc voilà. Des centrales.
Voilà. Centrales.
Maison centrale exclusivement.
Centrale. Et encore, tu sais, sous certaines conditions, c'est conditions de comportement, de ne pas avoir de rapport d'incident et tout ce qui s'ensuit, hein, c'est comme tout, hein, c'est aussi du chantage quelque part.
Voilà. En sachant que c'est très vicieux, parce que certains sociologues qui, eux, n'étaient pas affiliés au ministère de la Justice ou autre, ont constaté que la plupart du temps, les couples intramuros se séparaient au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, la plupart des couples, hein, un pourcentage, je vais laisser pour eux le chiffre parce que je suis pas un matheux et la numérologie, ça m'intéresse pas, les couples se séparaient. Voilà. Ce qui fait que quand tu es en centrale, ça veut dire, pour 99% des centraliens et des centraliennes, c'est des gens qui se retrouvent en centrale au bout de 5 ans. Tout compris, c'est-à-dire la préventive en maison d'arrêt, le jugement, parfois l'appel, et au bout de l'attente du transfert, au bout de 5 ans, se retrouve en centrale. Donc, et en centrale dans certaines, à savoir les 3 ou 4 dont on a parlé, on leur dit, vous voyez, messieurs, dames, vous pouvez avoir des UVF, des unités de visite familiale. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut que quelqu'un à l'extérieur vienne vous voir, quelqu'un qui obtient le permis de visite, quelqu'un avec qui vous devez avoir un lien familial, puisqu'il faut un lien familial, soit être parent, mari et femme, etc., etc. Vous pouvez venir en centrale, et là, vous aurez des UVF. Mais vous comprenez, dans la centrale, vous êtes 500, et des parloirs UVF, il n'y en a que 2. Donc, il faut faire la file d'attente. Et sur la file d'attente, les plus gentils auront des priorités. Parce que les UVF veulent dire un truc très très simple. Ça veut dire, plutôt que vous donner 3 jours de permission pour aller à l'extérieur dans votre famille, c'est votre famille qui va venir à l'intérieur pendant 12 heures, 6 heures, ou voire 48 heures. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Mais ces salauds, parce que c'est des salauds, savent très bien que la majorité des centraliens et des centraliennes, hein, n'ont plus de vie de couple.
Non plus de visite, même, des fois.
Non plus de visite. C'est simple. Donc c'est vas-y, Hugo. Je vais te citer juste un petit chiffre. À Saint-Maur, sur une population pénale de 300 personnes, tu dois avoir entre 30 et 40 parloirs.
Si on leur donnait un petit peu d'humanité, on se dirait, mais pourquoi ils ne mettent pas les UVF en maison d'arrêt? C'est-à-dire pendant les 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, où les gens sont en attente de procès, sont en attente de transfert, ont encore des liens familiaux. Pourquoi ils ne les mettent pas à ce moment-là? Donc ça prouve bien que c'est une fumisterie.
Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans jamais avoir rien appris, c'était un vrai génie. Question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences le soir. Quand il rentrait chez nous, il nous mettait en transe en nous racontant tout pour fabriquer une bombe. Mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de cette qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3,50 m, y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement, puis il met son kawaii, puis il y va. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. Oh, à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. À vrai dire, c'est plus un cerveau, c'est un peu comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je me suis même pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Et il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Et puis il prend sa R16, puis il y va. Sans passer par une pute roumaine de 17 ans. Yeah! Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages !» Et quand la bombe a explosé de tous ses fils de pute, il n'est plus rien resté. Tonton devant le résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'asseya et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu comme on a mes consciences. En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir sauvé la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. et le pays reconnaissant l'élu immédiatement. Chef du gouvernement.
Bon, vous êtes toujours à l'écoute de Papillon sur 89.5 Radio Dio. Alors, on vient d'écouter l'interview de Hugo, qui nous a raconté toutes ces années de prison. Bon, il y a eu peut-être un blabla sur la sexualité un petit peu long, mais c'est vrai que ça travaille pas mal de personnes, et du coup, c'est bien aussi de pouvoir revenir là-dessus. Et maintenant, on va faire un petit peu du local. Je vais vous parler d'un article du Journal du Progrès qui date du 18 juin. Alors, on avait déjà parlé l'émission précédente de cet incident qui est survenu à la maison d'arrêt le 15 juin.
En fait, je me demande si c'était pas on avait parlé d'un autre incident.
Ah, d'accord.
Parce qu'ils disent qu'il y en a eu trois.
Oui. Il y en a eu un le 24 mai et le 7 juin. Enfin, quand on dit incident, c'est-à-dire des problèmes avec les surveillants, parce que le reste, ce ne sont pas des incidents. Hein. Les choses sont claires. Donc, on a appris, donc le communiqué de presse du Progrès nous dit que c'est le syndicat CGT pénitentiaire hein, qui a donné cette information. Donc, un retour de promenade, un surveillant a demandé à un détenu de lui remettre un petit paquet qu'il avait récupéré sous une porte. Mais le détenu a refusé, il a avalé le paquet. Du coup, l'incident a provoqué un mouvement de foule vers le lieu du conflit. C'est à ce moment-là qu'un agent a été bousculé par un autre détenu. Et il a fallu l'intervention de plusieurs agents pour amener le calme. Donc, voilà ce que nous dit la CGT pénitentiaire. Du coup, l'OIP s'intéresse, donc l'Observatoire international des prisons s'intéresse à cette affaire, parce qu'il y a régulièrement, apparemment, des problèmes entre détenus et surveillants. Alors, on se demande s'il n'y a pas une pression qui est mise, s'il n'y a pas certains détenus qui ont un régime différent. Et du coup, l'OIP fait un appel à témoignage. Donc, on va vous dire ce que l'OIP souhaiterait éventuellement que vous puissiez lui apporter comme réponse.
Voilà. Donc, en gros, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que apparemment, l'administration n'a pas spécialement envie que ces informations sortent. On voit hein, l'info, elle venait d'un article du Progrès et c'était la version de la CGT pénitentiaire qui était donnée et c'est tout comme d'hab. Et donc l'OIP a vraiment envie d'avoir aussi le point de vue des détenus. Et puis nous aussi, on aimerait bien l'avoir. Donc je vous relaye un peu les questions que l'OIP pose. Donc ils aimeraient savoir, avoir un peu des infos sur le climat au sein de l'établissement. Donc d'une part, des infos sur les violences des personnes détenues à l'encontre des personnels. Donc moi, je me permettrais d'ajouter que ça peut être intéressant d'expliquer dans quel contexte ces violences elles surviennent, parce que apparemment c'est de plus en plus tendu à la Talo du fait de règlements qui se durcissent, de surveillants stagiaires qui sont peut-être un peu moins subtils, un peu plus zélés, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a entendu dire, et ce serait bien que vous prisonniers, vous donniez vos points de vue aussi là-dessus, quoi. Voilà. Sinon, l'OIP se pose des questions sur les violences des personnels à l'encontre des personnes détenues, celles dont on n'entend jamais parler, et aussi des violences entre co-détenus. Voilà. L'OIP pose encore des questions sur la gestion des incidents par l'administration pénitentiaire en détention. Voilà. Quelles sont les réactions, quelles sont les sanctions, etc. Et aussi, voilà, parce qu'on a, en fait... on entend dire qu'au premier étage à la Talo, il y a un régime un peu plus spécial. Ce seraient peut-être les gens les plus turbulents qui seraient mis tous ensemble, mais aussi dans des conditions encore pires qu'ailleurs, etc. Mais ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on entend, et c'est bien de donner vos infos et vos avis. Donc voilà, l'OIP demande quel est le régime de détention au premier étage, quel est le régime de détention au sein des autres étages, est-ce qu'il y a des différences, etc. Et quel est le profil des personnes passées au premier étage ? Parce que c'est pareil, ils ont l'impression qu'il y a une distinction qui est faite, mais ils ont envie d'étayer un peu ces impressions. Voilà. Le truc, c'est que donc vous pouvez écrire à l'OIP. C'est toi, Olga, qui a l'adresse. Ah non, tu me l'as ramené. Donc l'OIP, c'est l'Observatoire international des prisons. Donc c'est une association vraiment qui a pignon sur rue, très respectable, respectée des institutions, même si des fois elle enquiquine un peu trop l'administration pénitentiaire. C'est une grosse asso qui couvre tout le territoire. Et donc il y a l'OIP Rhône-Alpes. Et donc vous pouvez leur écrire, prenez vos stylos, au 57 rue Sébastien Griff, 69007 à Lyon. Alors,
oui, dis-le plus doucement.
Je répète. 57 rue Sébastien Griff, 69007 à Lyon. Voilà. Il y a un numéro de téléphone pour les personnes qui pourraient téléphoner. C'est 09 50 92 00 34. Parce que voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il semble évident que l'administration n'a pas envie que ces informations sortent. Et que, bah, moi, il me semble évident que c'est important qu'elles sortent et que, il y a moyen de trouver des biais pour qu'elle sorte. Et par exemple, quand on voit quelqu'un au parloir, on peut lui raconter des choses et lui demander de contacter l'OIP ou de nous contacter, nous, à Papillon, directement. Donc, ça fait que je continue avec l'adresse mail de la responsable de l'OIP Rhône-Alpes. Donc, c'est Céline Rémeringer. Donc, CELINE.REI. M-E-R-I-N-G-E-R. Est-ce qu'il faut que je répète ?
Non, ça va.
Ça va ? Donc, Céline Rémeringer, @oip.org. Voilà. Et sinon aussi, l'OIP, ils ont un site internet, voilà, par le biais duquel on peut les contacter uniquement par mail, mais vous pouvez vous informer aussi. Et nous aussi, on veut bien des infos et on s'engage à les relayer. Et voilà, et éventuellement on peut, enfin dans tous les cas les faire tourner, éventuellement donner du soutien aux gens qui en ont besoin. C'est un petit peu la mission qu'on s'est donnée dans la vie. Donc voilà, donc nous, vous pouvez nous écrire, c'est l'émission Papillon, chez Radio Dio, 14 bis rue de Roubaix, boîte postale 51 42 002, Saint-Étienne, CEDEX 1. Et pareil, si trouver éventuellement la possibilité de nous contacter par mail ou de nous faire contacter par email, c'est émission papillon, tout attaché sans accent, @riseup.net. Donc ça, c'est R-I-S-E-U-P. Voilà, c'était la fastidieuse tâche des contacts. Si on a le temps, on répétera notre contact à la fin de l'émission. Et voilà, quoi. En gros, je sais plus ce que je voulais ajouter, mais c'est vraiment, enfin, c'est vraiment important de, enfin, il a l'air de se passer des choses dans les tôles en ce moment, et notamment à la Talo, et des sanctions de plus en plus fortes pour les incidents, et des procès de plus en plus pour des incidents à l'intérieur. Et c'est important que ça se sache et qu'on comprenne ce qui se passe.
Ben, il faut briser cette loi du silence. On nous parle de loi du silence en extérieur, mais à l'intérieur, elle y est bel et bien, et ça serait bien qu'on puisse briser cette loi du silence, quoi, qu'on sache. Voilà.
Ouais, voilà. Donc, on espère avoir des infos. Et puis, on va faire une petite pause musicale. On va essayer de revenir un peu dans des trucs qui détendent, n'est-ce pas ? C'est quoi que tu nous as choisi, Olga ?
Un petit mambo. Alors, il y a du soleil, ça fait un petit peu vacances. Mmh. Voilà, ça décontracte, on peut danser.
Et d'ailleurs, en parlant de soleil et de vacances qui n'en sont pas forcément, on pense bien à vous avec cette chaleur torride. On sait que derrière les murs, c'est 15 fois
là,
pire.
Là, ça doit être horrible.
Eh ben oui. Surtout depuis qu'ils ont enlevé le préau dans la cour de promenade à la Talo ou dans la cour de sport, je ne sais plus. Il n'y a plus d'ombre.
D'accord. Ouais. Mais même en cellule, ça doit être intenable avec leurs fenêtres, avec leurs grillages.
Ouais.
Enfin bon.
Bon, allez, un petit mambo.
Allez. Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute de Papillon sur le 89.5 à Radio Dio. Alors là, on avait envie de parler un petit peu de Villiers-le-Bel. On a entendu parler de ce procès là depuis 15 jours. Donc on voulait revenir dessus pour montrer un peu comment l'État a voulu se trouver des coupables et leur mettre des peines de prison intenables. Donc, pour revenir vite fait sur le pourquoi de cette affaire, du procès, ça a démarré en novembre 2007, quand deux jeunes gens en scooter se sont fait renverser par une bagnole de flics. Et finalement, ils sont morts et les flics ont eu un non-lieu. Donc, du coup, ça a quand même brassé pas mal là-bas. Et depuis, il y a eu des émeutes dans le quartier qui ont rassemblé en fait les gens du quartier, c'est-à-dire les jeunes, les moins jeunes, tout le monde. Face à ça, il y a eu une répression policière massive, voire super massive, parce qu'ils ont déployé des centaines de flics sur les lieux. Et ça s'est caillassé, quoi. Les flics ont... ont tiré les banlieusards, enfin je sais pas, les gens de Villiers-le-Bel, pardon, ont aussi caillassé. Bref, il y a eu des arrestations massives suite à ça. Alors arrestations massives qui ont eu lieu quelques mois après dans le quartier. Les flics ont déboulé en nombre.
1500 flics. Hein.
Voilà, donc des nombres, c'est hallucinant. Ils ont déboulé dans ce coin et ils ont fait plein d'arrestations. Les personnes qui ont été arrêtées à ce moment-là, pour certaines, ont été jugées aussi, avec des peines plus ou moins longues, mais voilà, des peines qui allaient de 3 mois ou 3-4 mois à des 3 ans de prison.
Pour caillassage, hein, voilà. Pour jet de cailloux sur des policiers.
Alors on reviendra un petit peu sur pourquoi tout le monde n'a pas eu les mêmes peines. Et dans les journaux, la télé, ça a été le déferlement médiatique en nous montrant ce coin comme un lieu de non-droit, enfin des gens affreux qui sont méchants, qui s'en prennent aux policiers et qui s'en prennent aussi. Il y a eu un fait divers là il y a quelque temps, un jeune qui a été tué. Tout en disant qu'il faisait pas l'amalgame, mais ça a été, enfin, on a parlé de cette mort de jeune comme si c'était en relation avec tout ça, pour montrer que les gens qui habitent là-bas, Villiers-le-Bel, ben, ce sont des voyous, quoi. C'est pas des gens bien, et voilà.
C'est des barbares et des trafiquants, quoi.
Exactement, ouais.
Voilà.
Ouais, vas-y.
Ouais, et en fait tout cette vision médiatique en fait qui a été proposée et bien assénée, et ben c'est marrant parce qu'en fait elle sert clairement à justifier la répression qu'il y a derrière.
Oui, enfin depuis il y a des flics en permanence dans le quartier,
ouais, des ils tonnes font, de flics de toutes les brigades possibles et imaginables, quoi.
Il y a des contrôles, bon, ils cherchent on ne sait pas quoi, mais ils cherchent plutôt les outrages et le reste pour pouvoir dire vraiment que les gens qui habitent là-bas sont vraiment des malhonnêtes, quoi.
Ils bloquent les routes.
Ouais, ils sont partis dans un trip bizarre. Donc là, on voulait après passer... donc ça, c'est la situation dans Villiers-le-Bel. Et maintenant, on va un peu plus détailler ce qui nous a choqué dans ce procès, comment il a été mis en place et comment ça se déroule. Voilà. Je te laisse la parole.
Ouais. Donc là, voilà, ça fait 2 semaines qu'il y avait le procès de 5 inculpés pour tentative de meurtre contre les policiers. Parce qu'il faut savoir que pendant ces émeutes qu'il y a eu en novembre 2007 à Villiers, les policiers se sont fait tirer dessus. Alors pas avec des gros calibres non plus, comme on nous le fait croire. Mais bon, voilà, les 90 policiers, entre 80 et 90 policiers se seraient fait tirer dessus et donc sont portés partie civile. Et il y a 5 personnes qui étaient dans le box des accusés, là, depuis 2 semaines. On a eu le verdict ce matin, ils ont eu des peines très lourdes. Bon, après, on en a entendu parler dans les médias. Hein. Mais justement, nous, on a voulu se pencher un peu dessus. Où c'est qu'on s'est renseigné? Dans les médias, principalement. Mais aussi, heureusement, on a trouvé d'autres sons de cloche.
et principalement donc le collectif Respect, Vérité, Justice, qui est de Villiers-le-Bel et qui est en fait fondé par des proches des gens qui ont été incarcérés, qui eux sont sur un truc de réclamer un procès équitable et la justice et la vérité. Et puis il y a aussi des gens de Fréquence Paris Pluriel, c'est une radio à Paris, qui ont fait tout un travail de... Ils ont suivi le procès, ils ont essayé d'en rendre compte. Alors tout de suite, t'as carrément une autre version que celle que t'as dans les médias. Hein. Mais voilà, c'était pour dire un peu où c'est qu'on a trouvé nos sources. Et en fait, vraiment, nous, ce qu'on voulait, ce dont on voulait parler là, parce qu'on pourrait en parler pendant 1000 ans, c'est de vraiment cette manière dont l'État a organisé et légitimé sa répression, quoi. En fait, on s'est attaqué à leurs flics. Donc déjà que la justice a toujours besoin de trouver des coupables pour tout et de condamner lourdement, là, on s'était attaqué à leurs flics. Donc ils pouvaient pas faire autrement que de trouver des coupables et de les condamner lourdement.
Et d'ailleurs, Sarkozy a fait un discours hein, là-dessus, oui. Clairement, en disant qu'il fallait trouver les coupables et fallait les sanctionner, oui. Quoi.
Et moi, je trouve que c'est assez révélateur d'en fait ce que la justice prétend être et ce qu'elle est vraiment, où il y a un fossé un peu entre les deux, quoi. Et là, bah, le truc qui a été dit par les avocats de la défense et qu'on voulait développer un peu, c'est que ces accusations puis ces condamnations, elles reposent sur que dalle. C'est-à-dire sur des témoignages qui sont démontables en 2 secondes. Donc on a parlé beaucoup, enfin on va développer là-dessus, mais on a parlé beaucoup de témoignages anonymes et non rémunérés. Mais même les aveux et les témoignages, quand tu vois dans quelles conditions ils ont été soutirés aux gens, c'est... voilà, alors je sais pas, soit tu crois en la justice et puis si tu te penches là-dessus, tu n'y crois plus. Soit tu croyais déjà pas en la justice et si tu te penches dessus, ça confirme un peu ce que t'en pensais. Quoi,
parce ça donne
que...
de l'eau à ton moulin, ouais.
Oui. Parce que finalement, l'État a voulu vraiment faire un procès exemplaire à partir de Villiers-le-Bel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est surtout exemplaire de comment on juge les gens en France. Et sauf que c'est peut-être un peu plus poussé, je sais pas. J'en suis même pas sûre.
Bah moi, je pense que ça va servir pour la suite, quoi. Il va y avoir d'autres genres de procès comme ça, quoi.
Ouais. Et donc clairement, ce procès, donc, il est basé sur des témoignages anonymes et gratuits, en grande partie. Et pas uniquement. Et en fait, c'est là où moi je voulais dire que c'est, je trouve assez révélateur de plein de trucs qui se passent en justice. C'est les manières en fait dont on en arrive à mettre les gens dans le box des accusés et à les condamner. C'est basé sur notamment le travail de la police et puis de la justice. Et là, quand on regarde un peu comment la police et la justice sont comportées, on comprend qu'on en arrive à un dossier vide et des condamnations. Alors déjà, ça commence par des arrestations massives à Villiers-le-Bel. Je sais pas trop sur quoi ils sont basés. Ils sont allés arrêter des dizaines et des dizaines de personnes en défonçant leurs portes, en terrorisant leurs familles, leurs proches, etc. et en mettant clairement un climat de guerre dans la ville. Voilà. Ensuite, le procès a été l'occasion pour des témoins, pour les accusés, de raconter les pressions terribles qu'il y avait eues en garde à vue. Moi, j'ai la chance de jamais avoir été en garde à vue, mais de ce qu'on m'en a raconté, c'est clair et net qu'on te fout la pression et on te la fout de plus en plus. Et à la fin, tu vas raconter des trucs que tu n'avais pas forcément envie de raconter. Et donc... Ouais. Là, pour cette affaire qui est une affaire extrême, que la police a pris extrêmement au sérieux vu qu'elle s'était fait attaquer, j'ose à peine imaginer les méthodes de pression qu'ils ont utilisées, quoi. Et en fait, ce que des gens ont raconté, parce que si vous voulez, les premières arrestations qu'il y a eu, donc des dizaines, il y a des gens qui ont fini en procès pour caillassage de flics, ceux dont on parlait, qui ont pris jusqu'à 3 ans ferme, et il y a des gens qui sont ressortis, qui n'ont pas été mis en examen. Et il y a des gens qui ont raconté comment on leur avait foutu la pression et comment on leur avait dit « Mais donne-moi des noms, dis-moi qui c'est qui a tiré sur les flics, par exemple. On pourra discuter avec le juge, on pourra négocier ta peine, etc. etc. » Et je veux pas dire, mais quand on entend parler de comment ça se passe dans ouais. les gardes à vue, on sait que c'est le genre de choses qui se passent très souvent, quoi.
Mais d'ailleurs, Hugo, il en parle, là, dans ouais. l'interview, hein, et,
ouais. On en parlait l'autre fois avec les sans-papiers qui sont arrêtés. On sait que, notamment aussi dans les prisons, les gens qui se font choper pour un problème disciplinaire, genre par exemple pour du shit, parfois ils ressortent tranquilles et parfois ils vont au mitard. Et parfois on leur dit « Vas-y, t'as pas des noms à balancer, toi on te laissera tranquille. » Enfin, tout fonctionne comme ça, quoi. Et c'est dégueu d'ailleurs. Enfin,
bah la délation, ouais, tu peux pas dire non plus que ce soit bien, quoi.
Ouais, il commence même à y en avoir ras le cul.
Bah ouais.
Voilà. Donc ça s'est passé comme ça en garde à vue pour les gens qui avaient été arrêtés. Et par exemple, au procès de là qui vient de se passer, il y avait un gars. Et donc les observateurs ont expliqué que le gars, en fait, il a été chargé que pour caillassage finalement. Et au début, on lui a dit, tu vas passer en procès pour tentative de meurtre, tu vas te taper perpète. Donc vas-y, nous on pense que c'est un tel et un tel et un tel qui ont fait le coup, balance-les, tu t'en sortiras bien. Voilà, c'est bon. En plus de ça, ils ont fait des appels à délation. On en a entendu parler aussi pas mal dans les médias. Donc eux, la police, la justice ont appelé massivement à dénoncer les gens qui avaient participé aux émeutes et les gens qui avaient tiré sur les flics. Et ils ont dit ces témoignages seront anonymes et rémunérés. Alors l'ironie,
c'est beau.
Ouais. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'apparemment, ceux qui ont témoigné, les petites poucaves, ils seront peut-être même pas rémunérés parce qu'il y avait une petite astérisque qui disait que les témoignages, la rémunération était soumise à résultats, en fait. Il fallait qu'il y ait des résultats au témoignage. Donc bon, bref. Voilà. Et tout ça, donc voilà, vous voyez, on fait un gros truc comme ça, on fout la pression de partout, on cherche des témoignages, même s'ils sont bidons, on monte une pseudo-version vérité judiciaire qui, même si elle tient pas à la route, on s'en fout. Et le résultat, il est tombé ce matin, de 3 à 15 ans ferme. C'est terrible. Imaginez-vous un proche qui prend ça dans les dents, c'est vraiment terrible, quoi.
Mais l'État là, moi ce que je trouve vraiment dégueulasse, c'est que l'État, c'est lui qui incite tout ça, quoi, à la délation, à gagner de l'argent en faisant des témoignages de n'importe quoi. Et en fin de compte, ils ont été pris aussi un peu à leur piège, quoi, parce qu'il y a rien de concret là derrière.
Ouais.
Et on peut quand même dire que les flics, ils ont apparemment reconnu personne. Eux, ils n'ont pas dit c'est un tel, quoi.
Ouais, il n'y avait aucun fait matériel dans le dossier. Il n'y en a aucun qui a été sorti tout au long du procès. Des faits concrets, des machins, là, des preuves et tout. Et même les 80-90 flics qui ont été blessés, aucun n'a dit « je reconnais quelqu'un formellement ». Il y en a juste un qui a dit « ouh, je le sens quand je le vois dans le box des accusés. Je sens que c'est lui, mais je ne peux pas en être sûr ». Donc, je sais pas s'il faut plus de preuves que ça prouver que la justice est vraiment du foutage de gueule, quoi.
Ben ouais.
Excusez-moi, je me lâche.
Non, mais ce qui fait peur, c'est que tu te dis, ça peut être un exemple pour d'autres histoires, quoi. C'est ça qui est effrayant, c'est que finalement les mecs, ils ont témoigné sous X, il y a pas pu avoir non plus de confrontation, il y a rien eu, quoi. Et normalement, lors d'un procès, il faut qu'il y ait des confrontations, les gens, ils se parlent, quoi. Alors que là, il n'y a rien. C'est ça qui est fou.
Oui, c'est ça, c'est les avocats de la défense. J'ai même entendu à France Info, c'est dire si je m'informe, un avocat de la défense, il disait, mais quoi, les témoins... Non, je sais plus si c'était à France Info, bref, on s'en fout. Les témoins qu'on a pu faire venir à la barre, quand on les a interrogés, on a pu démonter leur témoignage en 2 secondes. Donc nous, on regrette que les témoins ne soient pas venus à la barre, qu'il n'y en ait pas eu plus.
Et y avait
parce
même
que s'il n'y a pas de discussion avec eux, on ne peut pas montrer qu'ils racontent des bobards, quoi.
Il y avait même l'histoire du mec qui est venu témoigner, qui finalement, c'était un indique de la police.
Oui, et
non, mais attends, c'est de la rigolade, quoi. Et ils jugent des mecs là-dessus, et après, les mecs, ils se prennent 15 ans.
Et puis l'ancien détenu qui vient témoigner sous prétexte que ça lui soulagera sa conscience et qu'en fait s'avère avoir un témoignage tout pourri, truffé de conneries et être un mythomane notoire, quoi.
Et puis je voulais dire que moi j'avais lu aussi pas mal de trucs sur Libération qui a suivi quand même l'affaire de façon plus sérieuse par rapport à d'autres médias. Donc voilà.
D'accord. Donc
vive Libération.
Donc voilà, on a lâché un peu ce qu'on avait à dire, mais vraiment, enfin, moi j'ai l'impression de radoter au fil des émissions, mais je trouve particulièrement flippant ce truc de la délation et des balances. J'ai l'impression que ça se systématise de plus en plus. Et voilà, quoi.
C'est du chantage. Les flics, ils marchent la justice, elle marche là-dedans aussi, quoi, avec le chantage.
Et en plus, c'est même pas sûr que ça te rapporte vraiment quand tu balances, quoi. Franchement.
Je sais pas.
Bon, voilà. On va bientôt devoir s'arrêter de cracher notre
venin.
C'est l'émission Papillon qui touche à sa fin. On voulait, donc on va enchaîner comme ça, sans transition. On voulait parler de deux sujets qui nous intéressent, sur lesquels on voudrait travailler et sur lesquels on cherche des infos, opinions, témoignages et tout ça. Le premier, c'est les expertises psychiatriques et comment elles sont utilisées en justice, en général, pour enfoncer les accusés. Et le deuxième, c'est un truc dont on a un peu parlé aujourd'hui, on en a parlé déjà d'autres fois, c'est le fait que les altercations ou problèmes aussi de disciplinaires ou de shit, tout ça en détention, se passent de plus en plus avec des procès à la clé, ce qui n'était pas le cas avant. Et on pense que c'est quand même un changement majeur dans les prisons et ça nous intéresse d'avoir des témoignages et des infos là-dessus. Voilà, donc écrivez-nous. C'est quoi l'adresse ?
Radio Duo, Papillon chez Radio Duo, 14 rue de Roubaix.
Boîte postale 51.
Ouais. 42 002.
Saint-Étienne, CEDEX 1.
Yes.
Voilà. Et ben, on se retrouve le premier dimanche d'août. Oui. J'espère qu'on sera plus nombreux. Et on vous laisse avec un morceau du Singe des rues qui colle bien au sujet dont on vient de parler.
Allez.
Voilà. Et ben,
à bientôt.
Ouais, grosse bise.
Et puis, tenez le coup.
Bon courage là-bas dedans.
Ouais, et puis, tenez le coup sous la chaleur quand même.
Et puis, écrivez-nous, quoi.
Ouais.
Et puis, esprit de Cain, c'est 7H16. T'étonne pas si le béton s'en surge. Ici les lois sont criminelles, les mettages vont mieux qu'un crochet. Le cerveau pris dans les taux, serrer les poings pour pas plancher. Dès le départ, des coups sur les dents pour faire baisser la tête. Alors ouais, je cours après les heures, interdit donc solitaire. Dans la gorge à goût de défaite. Tu croyais quoi? La vie dont on rêvait, on l'aura pas. De mauvais choix au coup du sort, finir la gueule à terre. Jamais trop baisser la garde, les mêmes sur qui comptaient, peu de hasard. Mais maintenant, non démarrage, ils vont nous perler. Nous calmer par la peur, tout s'en cache parqué. Otages de leur état, quand des matons dans les halls. Prison bondée, avenue cernée. Alors cocktail contre flashball. Mais tu prends du ferme pour une poubelle en flamme. Contrôle les mandats de dépôt face au parquet, famille en sursis. Dis-moi de quel côté l'urgence. Écoute les cités hurler au cri du béton armé.
Esclaves de nos vices contraints dans des villes se contrôlent. T'es la vie, c'est l'écrou, le suspect, le proc. Soirée tes proches de près, sont peut-être stupes. Prends ta haine, tes principes, contre les promesses d'un statut stable. Comme si tu passes un pacte avec le diable. Sois prof, si tu conflictes, mais couche-toi. Ferme-la, ce que les dames sont substance. Mort, avant l'âge et la plaine de fantasmes, de résistance. Mais bon, t'as bien vu, c'est pas une drôle de danse quand les portes tuent. L'État maintient les seigneurs de portée. Les insoumis parqués dans des taux qui débordent. Je t'avoue largué dans l'époque physiologique. Allergique à ses codes, si c'est des enfermé à l'air libre. Les experts font leurs analyses, éliminent les interstices d'existence entre les lignes. Alors on vit par intérim, baisse tant qu'on peut, leurs interdits baissent par la carte. Juste, mais de côté la dérive, faut pas passer devant la barre. En étendard, la haine de ceux qui nous dirigent. Mais y'a que nos carcasses qui détruisent dans l'air à fuite qu'on s'autorise. Et ouais, les taux se resserrent, la tolé là qui terrorise, c'est son rôle. Pour ça, même tu déportes des mômes.
Comme dans un procès à charge, tous coupables à leurs yeux, tous perdants à leur jeu. T'étonnes pas si le béton s'insurge, c'est pas les sorts mais les porcs qui s'acharnent. La rage sur les corps marqués au fer rouge, dis-moi de quel côté l'urgence. Franchement, faudrait qu'on se contente de compter les morts dans ce monde pourri à la base, où quelques improvisent quand d'autres se bousillent à la tâche. Dis-moi de quel côté l'urgence. Franchement, faudrait qu'on se contente de compter les morts. On carbure à la haine, on dansera sur les ruines. Esprit de Cain, de putain de singe et pris de vengeance.
Esprit de Cain, de putain de singe et pris de vengeance.